Notre espérance est en Dieu. Que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la miséricorde et la paix. C'est une joie, c'est une force d'être ainsi rassemblés pour s'ouvrir à sa présence, pour entendre sa parole, parole de résurrection et de vie, et pour le célébrer. Oui, c'est notre forteresse, ce Dieu, notre rempart, comme vient de le dire cette belle pièce d'orgue. Alors chantons maintenant notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Selon les paroles donc de Clément Marot, ouvrons-nous à la louange à Dieu. Réveillez-vous chacun fidèle. En votre Seigneur, réjouissez-vous. La louange est très séante et belle en la bouche de l'homme droit. Sur la douce harpe pendue en écharpe, louez le Seigneur. Chantez des cantiques et que toute musique joue en son honneur. Le Seigneur éternel regarde, ici-bas, du plus haut des cieux, dessus les humains, il prend garde et les voit tous devant ses yeux. De son trône stable, paisible, équitable, ses clairs yeux aussi jusqu'au fond visitent tous ceux qui habitent en ce monde ici. Et par lui, grande réjouissance, dedans nos cœurs toujours auront, pendant qu'en la haute puissance de son nom saint nous espérons. Que ta bonté grande sur nous réponde, notre Dieu est roi. Que tous ainsi t'entendent, espoir et attente, nous avons en toi. Alors c'est ce psaume 33 qui était mis donc en vers par Clément Marot au XVIe siècle que je vous propose de chanter maintenant donc dans le psautier français les strophes 1, 2 et 5 du psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Vous pouvez prendre place. Alors, grand bienvenue à Laure, qui a demandé à recevoir le baptême. C'est pour nous une joie particulière, bien sûr, pour ce dimanche matin, qui est aussi l'anniversaire, le 500e anniversaire de la Réforme, daté symboliquement au 31 octobre 1517. Alors, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, que vous connaissiez cet anniversaire ou non. C'est de toute façon chaque dimanche, un dimanche où nous nous ouvrons à cette puissance de résurrection, de nouveauté de vie qui est en Dieu. Mais quand même, il y a plusieurs paroissiens qui viennent de loin, particulièrement quelques-uns qui suivent l'oratoire par Internet et qui sont venus de loin pour une fois, pour être physiquement présents dans cette assemblée IRL, comme on dit en français d'aujourd'hui. Alors c'est une force, une joie d'être unis ainsi comme des frères et sœurs. Et c'est cela qui nous aide peut-être à pouvoir nous mettre à l'écoute en vérité de ce que le Christ nous donne pour vivre. Écoute le Seigneur ton Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable et que nous donne aussi Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors bien sûr, devant cet idéal infini de l'amour, nous pouvons nous tourner vers Dieu et reconnaître notre trop grand éloignement de lui. Alors je vous propose de vous le faire en vous unissant du cœur à cette prière de Calvin. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons devant toi que nous sommes de pauvres pécheurs, réticents à vivre libres, ne faisant que rarement du bien, souvent absent à toi et à nous-mêmes. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir négligé. Nous regardons nos vies, nos paroles, nos actes avec une vraie repentance. Nous te supplions de nous venir en aide, ô Dieu dont nous avons découvert l'amour par Jésus-Christ. Et effaçant nos fautes, réparant les dégâts que nous avons causés, accorde-nous et augmente continuellement les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus les troubles de notre existence, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur, et nous portions des fruits de justice et de sainteté par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mais quiconque se tourne vers Dieu dans la prière peut vraiment recevoir la certitude de la bienveillance de Dieu à son égard. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Christ, c'est Dieu lui-même qui se penche vers nous et qui nous dit « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance maintenant dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Prendre place. Bienvenue, Laure. Grand bienvenue en particulier à vous. Vous pouvez vous approcher de ce baptistère. Alors, depuis toute petite, vous vous êtes intéressée à Dieu, en fait. En particulier grâce à une arrière-grand-mère chrétienne catholique. Comme quoi, on entend dire parfois que les enfants sont l'avenir de l'Église. C'est vrai, mais je connais aussi pas mal de personnes âgées qui sont ainsi l'avenir de l'Église. Comme cette arrière-grand-mère qui nous donne la joie de découvrir aujourd'hui Laure, qui est venue pour demander le baptême. Alors Laure, vous aimez Dieu, vous lui faites une place dans votre vie par la prière et puis aussi par la lecture de la Bible. Alors effectivement, même si c'est ardu, si cela suppose plein de questions, parfois des questions que nous aurions préféré peut-être ne pas nous poser, avec des allers-retours dans les différents coins et en particulier dans cet évangile de Matthieu que vous avez découvert. Vous avez aussi été sensible à la foi et à la religion grâce à la foi de votre compagnon, un croyant aux idées ouvertes et respectueuses puisqu'il est musulman. Nous avons le même Dieu, bien entendu, puisqu'il y en a un seul, donc tous les regards, les recherches et les prières qui se tournent vers Dieu, se tournent vers le même Dieu qui est au-dessus, plus grand que toutes les religions. Lors ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a vraiment pour vous en particulier. Avant que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous et il sera toujours près de vous et pour vous. Donc ce baptême, ce n'est pas pour convaincre Dieu de vous aimer un peu plus, mais c'est pour lui faire peut-être place plus profondément peut-être qu'avec la simple tête et le simple cœur. Lui faire une place aussi dans un corps qui est le corps du Christ, qui est l'humanité rassemblée en son nom. Alors rien ne vous privera de cet amour de Dieu. Nous le prions. Seigneur notre Dieu, selon ta promesse, de génération en génération, tu envoies ton esprit de lumière et de vie. Merci d'avoir donné vie alors, de l'avoir aimé, de l'avoir entouré, de l'avoir accueilli, de lui avoir donné tant de dons. Merci pour le signe de ta grâce que tu nous donnes ainsi de mille manières dans notre vie. Et merci pour ce geste tout simple du baptême qui nous dit cette grâce que nous avons d'être chacune et chacun membre d'un même corps, le corps du Christ, unis par des liens de compassion et de complémentarité. Merci de nous donner Laure comme sœur en Christ. Amen. Laure, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laure, Dieu vous bénit et vous accompagne sur le chemin de votre vie, de jour comme de nuit, dans les jours merveilleux et puis dans les jours plus difficiles. Que ce Dieu d'espérance vous remplisse de joie et de paix. Que son amour vous donne de vivre par la puissance de son souffle de vie, souffle de créativité, de liberté. En réponse à cet amour de Dieu, vous avez répondu oui d'abord dans votre cœur et dans votre tête,
dans votre espérance, dans votre amour, dans votre façon d'être avec les autres aussi. Et maintenant, vous avez choisi de le dire publiquement au milieu de cet échantillon d'humanité que forme l'oratoire du Louvre. Laure, vous avez préparé une confession de foi pour dire votre confiance en Dieu, et ce sera notre confession de foi pour nous ce matin. Alors, je vous propose de vous lever pour vous unir à cette déclaration de foi chrétienne préparée par Laure.
Je crois en Dieu, notre Seigneur, notre source de vie et d'amour, l'unique créateur de toutes choses, visibles et invisibles, Père de tous les hommes, croyants ou non-croyants. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, venu annoncer la bonne nouvelle en nous faisant don de sa vie. Il est le guide, la porte, le chemin et l'espérance du monde. Je crois en l'Esprit Saint, agissant continuellement dans nos cœurs avec bienveillance. Je crois en la vie éternelle, en l'amour plus fort que la mort. Amen.
Un grand merci, Laure, pour ce texte. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors vous pouvez prendre place, sauf Laure que je garde ici quelques secondes encore pour l'accueillir chaleureusement, voilà, dans cette grande famille des chrétiens, famille qui dépasse toutes les chapelles particulières, bien entendu, celle de ceux qui reconnaissent, qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Alors Laure, l'Église, en fait, c'est pour nous comme une salle de musculation pour la foi. Elle est à votre disposition pour vous aider à nourrir votre réflexion, votre prière, votre foi. Mais en plus, ce sera pour nous une joie de bénéficier de ce que vous apportez d'irremplaçable par votre personnalité, votre pensée, votre foi personnelle. Nous prions Dieu. Ô notre Père, merci pour la personne de Laure, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui dans cette famille des chrétiens, au-delà des générations, des millénaires, des institutions humaines et des cultures. Merci pour tout ce qu'elle est, le trésor de sa personnalité, trésor de cœur, d'intelligence, de simplicité, de courage, de gestes vrais, de créativité. Fortifie-la encore, jour après jour. Bénis les gestes et les paroles qu'elle offre aux autres, en particulier dans son travail auprès des enfants, et puis auprès de ceux qu'elle croise sur sa route. Aide-nous à avancer en nous aimant les uns les autres, en nous aidant, de sorte que jour après jour, dimanche après dimanche, nous soyons sans cesse plus fidèles à toi, notre Père que nous avons aux cieux. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci.
Alors, le dernier dimanche d'octobre, nous avons d'habitude une petite pensée pour le 31 octobre 1517, jour où Martin Luther, enfin en tout cas selon Mélenchon, aurait affiché 95 thèses pour réformer l'Église chrétienne. Cette commémoration, bien sûr, n'a pas pour but de nous rappeler la pensée de Luther. C'est marqué historiquement, ni celle de Calvin d'ailleurs. Mais que cette commémoration soit comme un rendez-vous marqué dans notre agenda avec peut-être cette mention « Pensez à me réformer un peu aujourd'hui ». Peut-être nous réformer ensemble. Alors en cette journée particulière quand même, d'autant plus que voilà, les chiffres ronds sont toujours un petit peu marquants, j'ai retenu pour aujourd'hui, pour notre époque, notre vie, un propos de table de Martin Luther, ou qui lui est attribué, on ne prête qu'aux riches. Un court témoignage de l'homme Luther, suroccupé à écrire un nombre invraisemblable de traités, des centaines de sermons, des dizaines de cantiques dont il a composé la musique et les paroles, et puis à inventer une église renaissante. Martin Luther aurait dit « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui » que je vais commencer par prier une heure de plus ce matin, sinon je ne m'en sortirai pas. » Alors cette phrase inspirante, je trouve, nous ouvre sur un Luther qui est un homme d'action, mais aussi un homme de prière, et qui arrive à se donner plus de temps par la prière. Alors cela m'a fait penser à un curieux passage du livre de Josué, au chapitre 10. Je vais vous lire les versets 12 à 15. Ce jour-là, Josué parla à l'Éternel et il dit en présence de tout Israël : Soleil, tiens-toi silencieux sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée de l'Aïalon. Et le soleil se tint silencieux, et la lune s'arrêta debout, jusqu'à ce que la nation ait achevé sa mission. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher. Ce fut comme un jour parfait. Parfaitement parfait même. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant ni après, car l'Éternel a écouté la voix d'un homme. Oui, l'Éternel œuvrait puissamment pour son peuple. Alors Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Alors ensuite, je vais vous lire un petit passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus. Car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait très bien de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de ma vie. Alors, je vous propose de prendre votre petit recueil bleu, Louange et prière, et d'aller chercher le numéro 229. Alors, c'est un des cantiques. Il y a marqué 143. Attendez, voyons voir sur le panneau. C'est peut-être plutôt 143. Non, c'est bien effectivement le 229 que je vous propose, hein, désolé, le 229. Donc c'est un rempart que notre Dieu, donc on le connaît sous le nom de code de Ein Festburg, c'est un des cantiques écrits par Martin Luther, paroles et textes, et c'est effectivement une prière qui est très forte pour nous. Donc les trois strophes du cantique 229. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à servir, parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur, je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras en fidélité. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse entièrement à toi, afin que rien en moi ne s'oppose à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'aie en perfection l'amour de toi et l'amour de tes enfants que tu me commandes d'aimer. Alors c'est vrai qu'à cause du changement d'heure, nous avons ce dimanche une journée de 25 heures. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai lu ce récit des aventures de Josué qui obtient par la prière que sa journée, lui, excusez du peu, fasse près de 48 heures. Je vous ai lu ce texte à cause de cette double figure de Martin Luther comme homme d'action, mais aussi comme homme de prière, longuement, chaque jour. Martin Luther aurait donc dit quelque chose comme « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je vais commencer par prier une heure de plus, sinon je ne m'en sortirai pas. Comment est-ce possible ?» Cela semble aussi aberrant que la prière de Josué qui ralentit la marche de la lune et du soleil en plein ciel, de sorte que sa journée lui laisse deux fois plus de temps pour faire ce qu'il a à faire. Mais est-ce réellement ce que veut nous dire ce texte ? Nous prenons donc pour des naïfs prêts à croire à des histoires de fées et de lutins. Je ne pense pas, bien sûr, poser la question, c'est un peu y répondre, mais quand on regarde le texte de plus près, sans qu'on laisse les traductions essayer d'arranger un peu les choses pour nous les rendre plus crédibles, ça fait l'inverse à mon avis, mais ce texte nous invite plutôt à avoir, grâce à Dieu, un plus juste rapport au temps que nous avons et au temps dont nous manquons. Josué a une mission à accomplir, c'est sa vocation, avec son peuple, pour son peuple. Une journée infiniment trop chargée se présente. Lui aussi, comme Martin Luther, prend un temps pour prier et pour demander ce qui semble impossible, avoir le temps de faire ce qu'il n'a matériellement pas le temps de faire. Alors cette question de notre juste rapport au temps dont nous disposons, ne se pose pas simplement quand le temps nous semble trop court, elle se pose aussi quand la journée nous semble interminable et que nous nous ennuyons à mourir, même que l'aiguille des minutes de la montre semble collée à l'écran. Une solution est de prendre en urgence, alors, un moment pour prier, nous dit ce récit. Serait-ce une fuite hors de la réalité pour se réfugier dans la dimension spirituelle, qui est une dimension de l'éternité ? Nullement, à mon avis. Martin Luther, comme Paul, comme Jésus, sont des hommes de prière. Ils ont des périodes de retrait du monde, mais c'est pour se concentrer sur la relation à Dieu Et puis ensuite, ils sont retournés dans le monde pour agir. Ils étaient des hommes d'action et des hommes de prière. Ils étaient des hommes de prière pour être des hommes d'action. D'ailleurs, la prière de Josué est motivée par son action et quand il prie, il regarde le monde et sa géographie. Il ne s'en extrait pas. Il regarde ceux qui sont autour de lui, ce peuple dont il a la charge. « Soleil, tiens-toi silencieux sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée de l'Ayalon. » Et le soleil se tint silencieux, et la lune s'arrêta jusqu'à ce que la nation ait achevé sa mission. Curieuse prière, pour apprendre la politesse au temps qui passe ou qui a de la peine à passer, de jour comme de nuit. Avoir suffisamment de temps pour accomplir ce que nous avons à faire, avoir suffisamment à faire pour le temps que nous avons. Ajuster temps et action dans notre journée d'aujourd'hui. La structure littéraire de ce texte de Josué montre que l'action et la prière se conjuguent. L'ensemble du chapitre et même l'ensemble du livre de Josué est en fait un récit des œuvres de Josué. Mais si on peut le lire heureusement au sens figuré, c'est quand même le récit d'une conquête guerrière du pays de Canaan. Ce style a le style d'une épopée. Alors que les versets 12 et 13 de ce chapitre 10 sont particuliers, ils appartiennent à une forme littéraire radicalement différente. C'est un poème de 4 vers, avec ce rythme et ces allitérations caractéristiques de la poésie hébraïque. Des indications ont même été ajoutées sous les lettres, sur les lettres, pour indiquer comment le chanter. La prière de Josué est donc une incrustation poétique au milieu d'une narration, d'une épopée. Alors je crois que c'est déjà une belle et bonne piste pour vivre notre propre épopée, car notre journée est faite pour être ainsi, un cheminement, qui donne sujet à une narration, à des choses qui se sont passées. Mais incruster un temps de beauté, un temps de poésie, un temps de prière, un temps d'élévation dans notre journée. Pas pour sortir de ce monde, mais pour pouvoir y arriver, en vérité. Et faire de la journée entière, comme dit ici dans ce texte, en conclusion, une journée unique en son genre. Et même, nous dit le texte, une journée parfaitement parfaite, tamim. Alors c'est exagéré ? Peut-être pas en fait. Il faudrait seulement juste un petit prodige pour y arriver, et puis peut-être aussi un peu de bienveillance pour regarder ce qui a été parfait et unique dans notre journée, quand enfin le soir se couche. Et dans la prière aussi, Dieu peut nous donner ce regard de bienveillance sur notre propre journée peut-être. En tout cas, Josué nous propose de demander à Dieu d'accomplir ce prodige. Et c'est remarquable qu'il ne parle pas d'une vie parfaite, mais déjà d'une journée exceptionnelle par sa dimension de perfection et puis par le fait que Dieu a entendu. À chaque jour suffit sa peine, comme le dit Jésus. Et pour cela, pour que cette journée effectivement vaille la peine, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Demandez l'action de Dieu pour qu'il nous ajuste finalement, nous et notre vie, notre action et cette journée qui est là devant nous pour la journée d'aujourd'hui. Puis demain on verra autrement, en faire une œuvre d'art de cette journée, modestement. Prier, alors c'est vrai que c'est du travail en plus. Ça consomme de précieuses ressources de temps, de préoccupations, d'énergie, peut-être aussi de moyens matériels. Mais ce n'est pas au détriment de notre mission dans le monde, bien au contraire, nous dit ce texte. C'est comme ça qu'il y arrive, en fait. C'est pourquoi Josué et Martin Luther prennent d'autant plus de temps pour prier qu'ils ont besoin d'un miracle d'autant plus prodigieux pour ajuster le temps et le boulot à faire, ou inversement. Prendre le temps d'incruster un instant de poésie et de prière dans notre course en avant, dans notre épopée. C'est le rôle du culte dans notre semaine, c'est le rôle du culte personnel, intime, dans notre journée, c'est le rôle de ces prières, de ces chants et de cette musique dans la trame de notre culte que nous avons aujourd'hui. pourtant si attachés à la recherche du sens intelligible. Et donc merci, oui, à nos organistes pour ce qu'ils ajoutent en ce domaine. Merci à vous pour votre chant, pour votre émotion, si sensible en fait, quand nous sommes ensemble, enrichissant ce temps de culte pour nous tous. C'est extraordinairement précieux, une incrustation de beauté, d'émotion et de prière dans notre course. Alors ce n'est pas pour rien que le mot même de prière, de poème en grec, c'est le même, le français, le décalque du grec, dérive du verbe poieo qui veut dire faire. Ce temps de beauté, ce temps de poésie est encore un temps qui fabrique quelque chose, qui nous fabrique. Alors l'itinéraire de Josué est ponctué par des passages dans des sanctuaires. Avant et après ce passage, il est à Gilgal, avec le peuple. C'est lui-même, Josué, qui a construit ce sanctuaire de Gilgal en disposant en cercle, peut-être, ou en monceau, des pierres qu'il demande aux 12 tribus de ramasser dans leur prodigieuse traversée du Jourdain. Et ce sanctuaire, Gilgal, veut dire la roue. C'est un sanctuaire pour se souvenir et remercier Dieu d'être pour nous comme une roue qui nous permet d'avancer tous ensemble en traversant les obstacles, comme une roue permet de le faire. Il nous importe de passer par nos Gilgal pour entretenir cette mémoire, cette gratitude et cette confiance en Dieu et que cela change notre vie. La Bible est pour nous un formidable Gilgal. Alors ce que je retiens de plus beau dans ce que Martin Luther nous a apporté, parce qu'il y a du moins beau aussi, c'est de nous inviter, nous personnellement, à aller visiter régulièrement cette mémoire de la Bible, de l'étudier personnellement et de la prier sincèrement. Luther insiste avec virulence pour dire que si nous nous limitons à une démarche purement philosophique, exégétique, théologique, nous transformons même Moïse en philosophe, ce qui dans sa bouche n'est pas un compliment, et que c'est une ruse du diable pour nous perdre en fait. C'est vrai que Gilgal n'est pas une maison d'études, mais c'est un sanctuaire. La Bible est faite pour être étudiée, bien sûr, et Martin Luther est un exégète. Il connaît son Aristote, confesse-t-il. Il connaît aussi son Thomas d'Aquin, son Augustin. Il utilise les outils de la philosophie, même s'il s'en défend, mais il prie aussi. Par-dessus tout, il prie, et il prie beaucoup. Comme Gilgal, la Bible est une œuvre collective où de multiples personnes ont ajouté chacune leur pierre pour dire à leur façon que Dieu les a aidés à avancer concrètement dans leur vie. Nous pouvons aussi dresser notre propre petit Gilgal personnel en plus, avec la mémoire de ce que Dieu a fait pour nous et le témoignage aussi, la pierre qu'ont ajouté peut-être aussi nos proches et que nous ajoutons à notre sanctuaire en le recueillant précieusement dans notre mémoire. C'est ainsi que l'or qui vient d'être baptisé a été en partie porté par la foi de son arrière-grand-mère et il y a ajouté sa propre expérience de Dieu dans sa vie et qu'ainsi il y a un petit Gilgal si précieux qui s'ajoute à ce Gilgal qui est constitué autrement. Donc Josué va et vient en passant par Gilgal, mais il y a autre chose dans la vie que de méditer sur le passé. La prière de Josué est dans le présent, dans la journée d'aujourd'hui, afin que la puissance de Dieu se manifeste encore aujourd'hui en ajustant notre temps et faire de cette journée une journée unique et parfaite en son genre. Cette prière est préparée par celle faite à Gilgal et son exaucement nourrira nos Gilgal de demain. Ici donc, Josué est devant une tâche qui lui semble insurmontable, impossible à accomplir avec le temps dont il dispose. Il prie alors Dieu, nous dit le texte. Alors pourtant, c'est au soleil et à la lune qu'il semble s'adresser, comme un aztèque peut-être. Mais Josué, en fait, arrive de Gilgal et sa prière est encore toute nourrie de passages bibliques qui lui reviennent en mémoire. Et dans son problème de gestion du temps, lui vient finalement en mémoire cette page bien connue qui va l'aider à avancer dans sa propre prière. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, et que ce soit des signes pour les temps, les jours et les années. Et il en fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un quatrième jour. Et donc le soleil et la lune sont, dans le passage de cette première page de la Bible, de la Genèse, le soleil et la lune sont des signes du temps et des époques. Arrêter la lune et le soleil signifie dompter le temps, le domestiquer. Par ailleurs, les verbes employés dans la prière de Josué n'ont pas de sens, en fait, au sens matériel pour le soleil et pour la lune. En effet, Josué demande à Dieu que le soleil et la lune se taisent. Damam, en hébreu. Partout, c'est traduit par « se taire », sauf là où le traducteur met, bon, alors il dit, la lune ne peut pas se taire, le soleil non plus, parce que, évidemment, personne n'a jamais entendu le soleil parler au sens du matériel du terme. Donc ils ont mis un peu autrement, qu'ils se tiennent tranquilles, qu'ils se tiennent immobiles. Bon. Et ensuite, le résultat, bon, c'est que le soleil se tait, effectivement, et que la lune se tient debout, Hamad. Alors ça aussi, c'est bien rare que la lune se tienne debout sur les petites jambes qu'elle n'a même pas, en fait. Cela ne laisse pas penser qu'il faille comprendre ce texte autrement que métaphoriquement. Comme d'ailleurs le début de la Genèse, où la lumière apparaît avant le soleil et la lune, quand même, et les étoiles. Donc Josué demande à Dieu de l'aider à conjuguer le temps qui passe et le travail qu'il a à faire, de sorte qu'il puisse l'accomplir et que tout son peuple puisse être sauvé, et que personne, pas un seul de ce peuple, soit abandonné par manque de temps, et qu'on n'ait pas eu le temps de finir le boulot. Dieu répond à sa prière et c'est un miracle, faisant de cette journée une journée unique, parfaite. Alors comment est-ce que ça marche? Ce n'est pas une sortie de ce temps qui coule. En effet, le soleil ne se dépêche pas d'aller se coucher, nous dit le texte. Il ralentit, il permet d'en faire plus, mais il coule quand même. Ce n'est donc pas une fuite hors du temps, dans une autre dimension, dans cette éternité du temps. La prière de Josué est que le soleil et la lune se taisent. Je lis ça comme la fin de la tyrannie du temps sur nous, sur notre vie. Ce n'est pas au temps de fixer le sens de notre vie. Le temps est comme une matière première. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons le domestiquer de sorte que ce que nous avons à faire et le temps que nous avons puisse être ajusté. Et pour cela, Dieu fait deux choses, en fait, dans ce texte. D'abord, il ajuste la tâche que nous avons à faire. Et ça, ça apparaît peut-être moins clairement, parce que nous sommes tellement fixés par cette histoire de lune et de soleil avec une course prodigieuse que nous ne l'avons peut-être pas fait si attention. Mais cela veut dire, effectivement, que nous pouvons négocier avec Dieu le travail à faire, notre vocation. Et pour cela, il faut faire le point et il faut prier. Alors oui, on peut avoir des tas de projets, imaginer des idées, de choses à faire, de choses à éviter, mais on peut le faire avec lui, on peut le faire dans un dialogue avec lui, discuter. Et dans ce récit, Dieu fait un autre miracle que celui d'allonger le temps. Dieu fait aussi une grande partie du travail à faire. Et ça aussi, ça ajuste la vocation que nous avons. C'est un travail d'équipe avec Dieu. Reste à discerner ce que nous pourrions faire pour ajuster notre propre pierre à la création du monde, ni trop, ni trop peu, selon notre sensibilité, notre point de vue, nos forces, nos faiblesses. En priant avant de se lancer dans un ouvrage qui nous semble insurmontable, comme le suggère Martin Luther, nous pouvons recevoir d'ajuster ce que nous pensons être notre vocation, peut-être simplifier certaines choses. Ensuite, Dieu peut ajuster le temps que nous avons, comme nous le voyons avec ce prodige sur la lune et les étoiles et le soleil. Mais pas matériellement. Même Dieu ne peut pas faire qu'une minute fasse plus que 60 secondes sur la montre, les trotteuses de notre montre. Mais la valeur d'une minute de temps matériel peut vraiment être extrêmement variable pour nous. C'est une question de concentration, finalement. La prière permet, je pense, d'être plus présent à notre présent, d'être plus concentré sur le sens de ce que nous avons à faire, sur l'essentiel, d'être plus éveillés, d'activer des capacités que nous ne pensions pas avoir, comme Moïse qui croyait être incapable de parler. La prière peut nous aider à nous concentrer sur l'essentiel, sur notre vocation, sur ce que nous pouvons faire. Pendant une partie de sa vie, Martin Luther a été obnubilé par son salut, sa vie éternelle, sur le jugement de Dieu, au point de ne rien pouvoir faire d'autre jour et nuit que d'essayer de gagner la vie éternelle que Dieu lui avait déjà donnée de toute façon par grâce, comme à chacun d'entre nous. Grâce soit rendue à Jésus-Christ et aussi un petit peu à Luther et Calvin, nous n'en sommes plus là dans cette crainte du jugement de Dieu. Mais reste la recherche de se faire valoir à nos propres yeux, ce qui revient en fait au même, mais dans une façon d'exprimer cela, plus moderne, plus contemporaine peut-être. Et en réalité, cela se traduit par d'importantes préoccupations parasites qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel, notre vocation. Dans la prière, Dieu peut nous aider à faire tomber cette pression nocive et être ainsi plus présent à notre présent et à l'aujourd'hui de notre vocation. Être présent, c'est le sens de cette expression hébraïque qui nous est si chère à nous, lecteurs de la Bible, « Hineni », le « me voici » en hébreu, répondu par celui qui s'éveille à la vocation de Dieu, qui l'appelle par son nom, qui redouble même ce nom, « Abraham, Abraham, Moïse, Moïse, Marthe, Marthe ». Cet appel de Dieu, ce « Hineni » qui répond, ces serviteurs qui se tiennent tout d'un coup debout, même si c'est dans la nuit de nos ténèbres, pour avancer, comme la lune, effectivement, se tient debout en exaucant la prière de Josué. Être présent à son présent et à cette vocation, négocier avec Dieu directement, c'est une extraordinaire mise en valeur du temps matériel dont nous disposons, de chacune des minutes de notre journée. Prendre le temps de demander à Dieu d'ajuster notre temps et notre vocation comme un ébéniste ajuste les deux parties d'une queue d'aronde qui tiennent après cela si bien qu'il n'est même pas la peine de mettre de la colle. Cette prière, c'est une louange à Dieu. C'est la joie d'exister en ce monde, d'en respirer l'air. C'est une louange pour la beauté de la vie en ce monde. C'est espérer plus et mieux encore, oser espérer. C'est aimer le temps qui nous est donné comme un temps précieux, comme un cadeau, comme l'or dont l'orfèvre va faire un bijou pour embellir un peu. C'est aimer les autres, cette prière, ceux qui nous sont confiés, de s'en sentir un peu responsable à notre mesure, d'une certaine façon, selon l'appel de Dieu, et d'y mettre son cœur. Amen. Et je vous propose maintenant de chanter le cantique 143, donc, qui est de Jean-Sébastien Bach, en fait. « Ô Jésus, ta croix domine les temps, les peuples et les lieux », les trois premières strophes de ce cantique 143. Vous pouvez prendre place. Grand merci à David Cassan de nous accompagner à l'orgue avec ces magnifiques pièces qu'il nous a déjà proposées pour l'instant, d'autres à venir sans doute. Et puis c'est l'occasion d'annoncer un grand concert le jeudi 9 novembre, ici même, donc à 20h30 en entrée libre. C'est une occasion à nos deux organistes titulaires, David Cassan et Sarah Kim, eh bien de nous proposer un programme tout à fait exceptionnel, joyeux, innovant. Donc c'est avec une grande joie que nous nous préparons à ce concert. Il y a même un écran qui est en train d'être prévu pour qu'on puisse voir les organistes jouer, ce qui effectivement peut rendre plus présent encore notre écoute, je pense, de ces musiques. Alors ça, c'est le 9 novembre à 20h30. Vous pouvez, je pense, prendre des petits papiers sur la table de la sortie et en distribuer à tous les mélomanes de votre entourage. À la sortie, nous avons une autre grâce, c'est l'accueil, le temps d'accueil, de rencontre qui a été préparé par des bénévoles dévoués qui sont donc cachés derrière la porte en bois qui est au fond du cœur, comme le dit Rodrigue. Alors cet après-midi, il était prévu un Chantons la Réforme, donc cette manifestation est annulée. Je pense que si vous voulez néanmoins vous ouvrir à quelque chose de cet ordre, eh bien, il y a notre chef de chœur Fabien Aubé qui organise à la paroisse Saint-Pierre, c'est au but de Chaumont, un temps de chant par son ensemble vocal, donc de chant de la Réforme. Vous trouverez ça sur Internet si ça vous intéresse. Samedi prochain, de 10h à 11h, avec le pasteur Gilles Castelnau, il y a le temps de découverte de l'hébreu biblique. Dimanche prochain, il y a le culte du souvenir, donc on évoque les personnes de notre paroisse qui sont mortes dans l'année. Donc c'est le pasteur Richard Cadou qui va présider ce culte, donc. Et puis à la suite de ce culte, dimanche prochain, à midi, Salmono, eh bien, il y a un repas paroissial, le premier repas paroissial de l'année, non, le deuxième repas paroissial de l'année. Donc, pour cela, pour aider l'équipe de préparation, eh bien, c'est sympa si vous pouvez vous inscrire soit au stand librairie, soit auprès du secrétariat. Enfin, j'ai une triste, bien triste annonce à faire. Je considère qu'en l'état, les conditions ne sont plus réunies pour que je puisse exercer le ministère pastoral à l'oratoire en toute sérénité. Et donc, après avoir bien réfléchi et prié, j'ai donné ma démission du poste de pasteur ici au 30 juin 2018. Avec Souyoun, nous sommes infiniment tristes de cela, tellement nous sommes attachés à cette communauté vivante de l'oratoire et à son rayonnement. Alors nous ne savons pas encore où nous allons aller. Je donne la parole au président du conseil presbytéral, André Ducrot, qui puisse exprimer son point de vue sur la question et d'autres questions.
Bonjour à tous, chers amis, j'ai des annonces effectivement tristes et pénibles à vous communiquer. Comme nous sommes dans un temps de culte, je vous prie instamment, au fur et à mesure de leur communication, de ne pas réagir. Les pasteurs, les conseillers presbytéraux qui sont présents seront à votre disposition à la fin de ce culte, après le culte, donc, pour répondre à vos questions si vous souhaitez nous interroger. Le mardi 17 octobre dernier, lors du conseil presbytéral, le pasteur Richard Cadou a souhaité faire une communication et nous a annoncé sa décision de ne pas poursuivre son ministère à l'Oratoire du Louvre au-delà du 30 juin 2018. Il a rencontré les représentants du conseil régional, le président Bertrand Cazeneuve et le secrétaire du Conseil national, M. Didier Crouzet, pour demander le bénéfice d'une dérogation, compte tenu de son arrivée toute récente à l'oratoire. La réponse lui sera communiquée début décembre. Il y a eu bien sûr un temps d'échange entre les conseillers presbytéraux qui a suivi et Richard. Ce fut un débat, je pense, correct, mais assez direct dans l'expression de chacun. Et le pasteur Pernaud, je ne vais pas reprendre, après avoir un temps d'échange avec lui, j'avais proposé au Conseil une résolution qui d'ailleurs a été adoptée, c'était d'avancer l'évaluation de son ministère, qui est fixée tous les 6 ans, de l'avancer d'un an et de réaliser cette évaluation à la fin de cette année. Marc nous a informé, le président du conseil régional, Bertrand Cazeneuve, et moi-même, donc de sa décision dont il vient lui-même de vous faire part aujourd'hui. Malgré ces tristes décisions et ces constats, je dois vous dire que le conseil va se mettre donc dès maintenant en recherche d'une nouvelle équipe de pasteurs, en lien bien sûr avec le conseil régional, afin de reconstituer une nouvelle équipe pour que la rentrée de 2018 se passe le plus normalement possible. D'ici là, nous savons compter sur l'engagement de nos 2 pasteurs pour qu'ils poursuivent leur ministère avec le même engagement, nous n'en doutons pas. Donc les activités, les cultes de la paroisse ont fonctionné comme d'habitude. Dans nos choix des futurs pasteurs, comptez sur nous. Nous veillerons à ce que l'oratoire du Louvre reste à la hauteur des espérances qu'il incarne pour le protestantisme libéral. Tous les membres du conseil presbytéral restent bien sûr au travail. Et dans ce moment difficile, je vous remercie, moi aussi à mon tour, d'être présent aujourd'hui, d'être présent les prochains dimanches, de rester unis, réguliers, lors des cultes de cette paroisse qui, vous le savez, c'est pour cela que vous êtes là, est un porte-drapeau du protestantisme libéral et qui, avec vous, continuera à rayonner. J'examinerai, je pense aussi avec les pasteurs, le meilleur moyen d'informer les paroissiens qui ne sont pas présents aujourd'hui pour, et peut-être avec eux, compléter cette information. Au nom du Conseil presbytéral, je vous remercie de votre écoute et que Dieu nous soit en aide.
Alors merci pour ce temps donc de libre expression. Voici maintenant le moment de l'offrande. Tout nous vient de Dieu. L'offrande est un temps qui permet, un geste qui permet de remettre dans nos vies les choses en perspective, le spirituel l'emportant normalement sur le matériel. Nous nous unissons dans la prière. Loué sois-tu, Dieu notre Père. Nous te remercions pour toute la fidélité et la miséricorde que tu as montrée envers nos pères, pour toute l'aide merveilleuse que tu leur as accordée. Dans les temps d'orage et de violence, tu as été et tu restes pour eux et pour nous une forteresse. Tu es notre espérance et notre force. Par ta parole et par ton esprit, tu nous as appelés à nous unir pour nous tourner vers toi et te faire place dans notre vie. Et nous avons fondé l'Église. Donne à cette Église de se réformer sans cesse, afin de grandir dans la fidélité à ce trésor qu'est l'Évangile, et ce trésor qu'est la confiance en toi. Nous te prions pour notre Église et pour toutes les Églises. Nous te prions pour les croyants de toutes les religions, pour que nous puissions avancer en paix comme des enfants du même Père. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas et qui peut-être déjà te pressentent à l'intérieur de leur cœur, de leurs pensées et dans les miracles de ce monde. Nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés et maltraités en ce monde, ceux qui souffrent de discrimination dans leur pays, dans leur société, dans leur famille, pour ceux qui sont persécutés, frappés, afin que tu les portes, que tu les aides à sortir de leur peine, afin que tu éclaires aussi les persécuteurs. Nous te prions pour les pauvres et pour les malheureux, pour les faibles et les petits. Nous te prions pour nous-mêmes, pour nos familles et pour ceux que nous te confions, que nous te remettons à ta sollicitude transcendante. Oui, nous te prions pour ceux qui connaissent un peu ton évangile, qu'ils aient à cœur d'en vivre dans la reconnaissance et d'en témoigner en parole et en acte. Et pour cela, unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, nous te prions avec cette prière du Christ, notre Seigneur et notre frère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos propres offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et chacune et chacun en particulier, recevez la bénédiction de Dieu sans condition, sans réserve, de Dieu, de l'Éternel sur vous et votre existence personnelle. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'accompagne, toi. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Béni sois-tu, ô Dieu, source de vie.